Bonjour à tous et à toutes. Des salutations particulières à ceux que à qui je n'ai pas pu serrer la main. Et puis tous ceux que je connais pas, je me réjouis de cette magnifique assemblée. Vous savez, ça vient d'être dit dans la prière. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Quoi qu'on en pense, nous ne sommes pas le fruit du hasard. Et ce qui peut faire toute la différence dans notre vie, c'est de réaliser que nous avons un créateur. Certes, on n'a pas choisi nos parents. Il y a eu parfois des bons parents. Il y a eu parfois des parents avec qui c'était plus difficile. Les parents ont fait du mieux qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Mais fondamentalement, bien-aimés, de réaliser que nous avons un créateur, quelqu'un qui nous a voulu, qui nous a désiré. Ma femme va même jusqu'à dire qu'avant même qu'on ait été créé, il connaissait la longueur de nos pieds. Oui. Et vous savez, les critères de beauté, devant Dieu, nous sommes tous beaux. J'aimerais vous dire ce matin, vous êtes beaux, vous êtes belles, parce que Dieu vous a créé comme il vous a voulu. Et vous savez, les critères de beauté de ce monde, il faut pas trop les laisser nous submerger. Le plus important, c'est d'accepter qu'on a eu un créateur au départ, qui nous a façonné dans les entrailles de notre maman, et il nous aime. Il nous aime. Si Dieu ne m'aimait pas profondément, je ne serais pas là ce matin. Parce que la religion ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, la religion. Les faux ceci, faux cela, faux pas ceci, les codes, les lois, j'ai pas une nature qui aime ça, en tout cas. Mais une personne qui m'aime inconditionnellement, ça je prends tous les jours de ma vie. Alors, à vous d'y voir. À vous d'y voir. Donc, je me présente courtement. Je suis né au Val-de-Rue, d'une famille d'agriculteurs, donc j'aime la terre. Et puis, j'ai été formé dans trois métiers différents, l'agriculture, la police, attention, et pasteur. Ah, ouf. Pasteur, voilà. J'ai le bonheur d'être marié. Si tu peux te lever, s'il te plaît. J'ai le bonheur d'être marié avec cette merveilleuse femme, Arlette. Et tu n'es pas connu de tout le monde ici ce matin, et puis dire que j'ai beaucoup de bonheur aussi à exercer le ministère pastoral avec toi. Merci beaucoup. Vraiment. C'est un cadeau. Est-ce qu'il y a des enfants parmi nous? Est-ce qu'il y a des enfants? Ah oui, il y a des grands-enfants. Voilà, quelques-uns. Les enfants, est-ce que je peux avoir votre attention? Ouais. L'eau. Les enfants, vous allez nous aider ce matin. Pour vous, l'eau, ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'eau? Ah ouais, alors? Ah ouais, ah. Avec l'eau, on peut baptiser. Mais dans la vie courante. Kali, elle est où, Kali? Kali, dans la vie courante, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'eau? On peut nager, ouais. On peut se baigner, c'est ça? J'ai pas compris. On peut boire, voilà, c'est bien. Mais est-ce que quelqu'un a dit on peut se laver ou se baigner? Voilà. Ah, parfait. Merci, hein. On peut se laver. Avec l'eau, on peut se laver. Donc les enfants, en tout cas moi ça m'est arrivé, si vous jouez dans la terre ou dans le sable, des fois c'est pas très propre, quand on rentre à la maison, papa me dit, faut aller te laver les mains. On se lave les mains. Et puis si on va jouer à quatre pattes dans la boue, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu des enfants jouer dans la boue sous la pluie. Ils étaient heureux. Mais quand on va dans la boue, puis qu'on s'en met partout quand on rentre, ben papa et maman, ils disent quoi? Il faudra prendre une douche. Ça va pas, tu vas en mettre partout. Hein? Donc l'eau sert à se laver, à se nettoyer extérieurement. Et moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est que la Bible nous parle d'être lavé à l'intérieur. D'être nettoyé à l'intérieur, de recevoir un cœur tout propre, de recevoir une conscience légère. C'est possible d'être lavé, d'être nettoyé à l'intérieur. Comme on peut se laver et se savonner sur tout son corps. Et puis, dans tout ça, la conscience. La conscience, c'est quoi? Alors, je sais que j'ai des personnes universitaires au milieu de nous, donc tu vas faire attention à ce que je dis. Mais La conscience, elle a deux branches. Il y a la branche psychologique, la conscience psychologique, et il y a la conscience morale. Et j'aimerais ce matin courtement parler de la conscience morale, très courtement. Vous savez, la conscience morale nous permet de distinguer entre le bien et le mal. Mais cette conscience, on peut l'écouter ou l'étouffer. Et je suis convaincu que c'est Dieu qui a mis en nous cette conscience du bien et du mal, parce que Dieu veut nous garder du mal, nous protéger du mal qui détruit. Et j'aimerais vous dire, écoutez votre conscience, bien-aimé, écoutez votre conscience ce matin. Donc, si on fait le mal de manière prolongée, notre conscience va nous amener de la culpabilité, peut-être même de la honte. On sera mal dans sa peau. Et c'est là qu'il faut savoir écouter sa conscience. Et puis, autrement dit, quand la conscience, on dit parfois, j'ai bonne conscience. Ça vous arrive de dire ça? Dans cette affaire, j'ai bonne conscience. Je suis en paix. Voilà, bien aimé, parfois on fait d'autres choix qui sont bons et qui fait que notre conscience est apaisée, est calme. Alors, si on peut être lavé, si on peut être purifié, j'aimerais vous dire que ça nécessite aussi qu'on soit pardonné. Lavé, purifié, pardonné. Et seul Jésus-Christ, bien aimé, seul Jésus-Christ a le pouvoir véritablement de nous pardonner. De nous pardonner. Pourquoi? Parce que Jésus, sur cette terre, il a vécu les mêmes réalités que nous. La Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses. Mais il n'a jamais manqué la cible. Il est resté en communion avec Dieu, son Père. Il n'a jamais péché. C'est ça qui lui donne la légitimité et le pouvoir de nous pardonner. Mais plus que ça, vous savez, tout ce qui est dans nos pensées, nos paroles et nos actes, nous a détruits intérieurement. Mais aussi a détruit les gens autour de nous. Toutes ces choses-là, Jésus les a prises sur lui, en lui. Et bien aimé, il en a subi toutes les conséquences. Vous avez quand même tous entendu parler de Jésus-Christ et de la croix. J'espère. Vous avez peut-être tous fait un peu de catéchisme comme moi. Il faut voir que Jésus, il est cloué sur une croix. C'est juste la conséquence de tout ce que nous on a fait dans le mal. Consciemment ou inconsciemment. Donc Jésus, il a pris sur lui non seulement le mal de nos cœurs, de nos vies, mais il en a subi les conséquences, les tourments, jusqu'à avoir les vaisseaux sanguins superficiels éclatés, tellement il était pris dans l'angoisse parce que Dieu l'avait refoulé. Tout à coup, Jésus n'était plus son fils parce qu'il était mal, il était fait malédiction pour nous. Séparé du Père, en enfer. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il ne pouvait pas rester dans la gêne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, par son pouvoir extraordinaire, a repris son fils, l'a sorti du tombeau, l'a ressuscité. Il est apparu aux gens à Jérusalem. Il est apparu. Et Thomas, ou Saint Thomas, il a dit, je croirai que si je verrai. Et Jésus ne l'a pas condamné. Jésus ne vous condamne pas. Jésus ne condamne pas. Jésus n'accuse pas. Mais il convainc. Il convainc. Et c'est formidable parce que Thomas, il a dit, je ne croirai pas si je ne verrai pas. Et Jésus, qui voit tout, qui maîtrise tout, il est apparu au milieu de ses disciples et il a dit à Thomas, regarde les marques. Regarde les marques, les trous dans mes mains. Regarde le coup d'épée sur mon côté. Je suis bien Jésus. Et il a même mangé avec eux pour leur dire qu'il était ressuscité, il était vivant, il avait un corps. Mais, si Jésus a payé la conséquence de tous nos errements, pourquoi est-ce qu'on continuerait de pécher? Pourquoi est-ce qu'on continuerait de vivre loin de lui? Alors qu'il a tout subi à la croix, alors qu'il a subi les tourments à notre place. Ça serait le mépriser dans tout ce qu'il a fait pour toi et moi. Ne vaudrait-il pas mieux lui demander pardon? Se repentir et accueillir sa vie à lui? Vous savez, j'ai 62 ans. Hein. Les âges des hommes, on peut dire. Hein. On ne demande pas l'âge des dames, les hommes, on y va. Écoutez, j'ai 62 ans, mais j'ai une pêche. Mais c'est pas juste de l'artifice. C'est cette joie, cette pêche, ce sens de la vie que Jésus m'a donné. C'est juste merveilleux. C'est juste merveilleux. Donc, ça serait mépriser tout ce qu'il a fait pour nous de l'ignorer. Ne vaudrait-il pas plutôt l'accueillir dans nos vies? La Bible nous dit qu'on peut être purifié dans nos cœurs de tout ce qui pesait sur nos consciences. De la même manière qu'on peut être lavé dans nos corps, je l'ai déjà dit. Et plus loin, la Bible nous dit que le baptême ne consiste pas à laver les impuretés extérieures, mais le baptême a tout son sens dans le sens d'acquérir une conscience pure devant Dieu. Vous savez quoi? qu'est-ce qui donne de la pertinence et de la valeur au baptême? J'ai réfléchi à ça. Qu'est-ce qui donne de la valeur et de la pertinence au baptême? Mais c'est d'être en amour avec Jésus. Vous me direz en amour avec Jésus. Bon, en amour entre humains, on peut concevoir. Mais Jésus, on le voit pas, on sait pas où il est. Moi, je vous dis que c'est possible d'être en amour avec Jésus. Je l'ai jamais vu. Mais par son Esprit Saint, il vient habiter en nous, dans nos entrailles. Et on se sent tellement aimé qu'on veut l'aimer en retour. Et c'est, vous êtes d'accord, les futurs baptisés? Si vous êtes là, c'est parce que vous aimez Jésus. D'abord. Le baptême vient comme une suite logique. Mais il y a une histoire d'amour. Au départ, c'est une histoire d'amour. Même nous les mecs, hein David? Hein, même nous les mecs, Tony? On aime Jésus. On reste des hommes. Et pourtant, Jésus nous a donné un cœur tendre. Et on l'aime en retour. Donc, aimer Jésus, c'est ni de la fabulation, ni un délire mystique. Je suis désolé. J'ai les pieds sur terre. Je m'occupe du jardin, je m'occupe de la maison, j'ai les pieds sur terre. J'assume mes responsabilités de tous les jours. Mais mon cœur, il est là-haut, avec Jésus. Allons plus loin. Qu'est-ce que la Bible nous dit encore du baptême? Le baptême est un signe d'appartenance. Là, François, si tu peux mettre, s'il te plaît, au projecteur. Le baptême est un signe d'appartenance. À cette époque, Jésus parut. Non, c'est pas celui-là. C'est, voilà. À cette époque, Jésus parut, il quitta la Galilée et se rendit auprès de Jean au Jourdain, coucou, pour se faire baptiser par lui. Mais celui-ci essaya de le dissuader en disant, c'est moi qui aurai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens à moi. Jésus lui répondit, accepte pour le moment qu'il en soit ainsi. Il est bon que nous accomplissions ainsi ce que Dieu demande. Bien-aimé, Jésus s'est fait baptiser, non pas parce qu'il était pécheur, non pas parce qu'il avait des choses à se reprocher devant Dieu, non. Le Fils de Dieu n'a jamais péché. Le Fils de Dieu n'a jamais manqué la cible. Mais il s'est fait baptiser pour manifester publiquement son appartenance au Père, sa communion au Père, sa relation au Père, le Père qui a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Est-ce que vous aimeriez un jour entendre Dieu vous parler comme ça? C'est possible. Potentiellement, c'est possible si vous l'acceptez. Signe d'appartenance. Le baptême est aussi un renoncement. On renonce à son ancienne vie. On renonce à son ancienne vie. Mais dites-moi, est-ce possible de renoncer à son ancienne vie sans savoir au devant de quoi on va? Oui, c'est possible, mais c'est de la folie. C'est prendre un risque énorme. Comment voulez-vous quitter une vie, renoncer à votre vie, d'ici-bas, votre enfance, votre adolescence, votre vie d'adulte, dans vos choix, dans vos valeurs? Comment est-ce qu'on pourrait renoncer à ça si on n'a pas quelque chose de meilleur qui nous est proposé? On est d'accord ou bien? Vous me suivez, hein? Comment ça serait possible? Alors ce renoncement, il vient du cœur, il vient par amour. Galates 5, 24, s'il te plaît. Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont cloué sur la croix les désirs mauvais qui les entraînaient, parce qu'ils ont découvert une vie meilleure. Donc renoncer à une certaine manière de vivre ne peut se faire que si on a découvert une vie meilleure. Et j'aimerais vous dire, à partir du moment où l'Esprit de Dieu, une première fois, vous inonde dans tout votre être, que vous sentez une chaleur, un bien-être, que vous vous sentez aimé, accepté, à partir de ce moment-là, ça va commencer à tourner dans votre cerveau et vous allez dire, ah peut-être ce Dieu dont on m'a parlé depuis longtemps, peut-être qu'il est vivant, peut-être qu'il m'aime, alors je vais le chercher, je le veux pour moi. Et si vous avez cette détermination, vous le trouverez, vous le trouverez. Ce savoir aimer sans condition nous apaise, nous sécurise et va nous donner un autre regard sur nous-mêmes et sur les autres, sur nos contemporains. Se sachant tellement aimé, on voudrait aimer les autres et on leur fera grâce, on les pardonnera si nécessaire. Et je vais terminer en disant, en aucun cas, le baptême ne doit être le fruit d'une tradition. Parce que bien aimé, si le baptême est le fruit d'une tradition, on s'engage dans quelque chose qu'on ne comprend pas avec nos tripes et avec nos cœurs. Mieux vaut rien faire. Mieux vaut rien faire. Petit, mes parents, moi j'étais un milieu protestant. Tout petit, on était deux, hein. C'était sympa, on était deux. J'avais mon frère jumeau. On était tout petits. parce qu'on avait 8 mois, 10 mois, je ne sais pas, peut-être une année. Mes parents, avec une bonne conscience, avec ce qu'ils croyaient, ce qu'ils pensaient, nous ont baptisés et se sont engagés à nous enseigner à l'école du dimanche, hein, pour les plus âgés, à l'école du dimanche, et on nous a parlé de Jésus, de la Bible, c'était très bien. Donc ce pédobaptiste n'était pas sans sens, ça avait le sens de nous présenter à Dieu de la part des parents. Mais le véritable baptême, bien aimé, c'est un baptême avec une conviction personnelle forte qui ne peut que suivre l'engagement pour Jésus-Christ, parce qu'il nous a aimé le premier, parce qu'on l'aime et parce qu'on veut le suivre. Waouh ! Le baptême est un engagement personnel avec une conviction forte. Et j'ai écrit, le baptême d'eau demande une conviction personnelle forte devant Dieu, sans pression familiale. J'ai parfois entendu la pression familiale dans ou hors de l'église, c'est faux. On peut enseigner le baptême, mais laissons les gens eux-mêmes prendre leurs responsabilités et se positionner par conviction. Et j'aimerais dire en conclusion, le baptême ne nous sauve pas, c'est la foi en Jésus qui nous sauve. Le baptême ne nous sauve pas, mais il devient une évidence pour ceux qui se savent sauvés. Quand tu te sais sauvé à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, l'Esprit de Dieu va parler à ton cœur et tu vas dire, waouh, c'est le temps, je veux bien comprendre ce que c'est le baptême et je veux me faire baptiser. Et j'aimerais vous féliciter, tous les 5, parce que je sais que c'est un engagement personnel. C'est vous qui avez décidé et c'est magnifique, c'est magnifique. C'est notre foi dans la personne de Jésus-Christ, mort, ressuscité, qui nous sauve. Ni plus, ni moins. L'évangile, c'est simple, n'est-ce pas, Laurent? Faut pas rendre compliqué ce qui est simple. C'est une question de foi, de cœur. Et je termine en disant, le baptême n'a rien de magique ou de superstitieux. Le baptême est fait de symboles forts, mais ce n'est ni magique ni superstitieux. C'est Jésus qui l'a institué lui-même. Donc, on va, voyez, alors on est bon avec nos futurs baptisés. Merci Claude. Claude, il a mis de l'eau chaude un peu. On voulait pas exprès vous baptiser dans l'eau froide. On voudrait quand même que vous soyez à l'aise, hein. Donc, j'avertis les futurs baptisés. On va pas vous garder trop longtemps sous l'eau. Mais je vais m'assurer qu'on voit plus rien à la surface. Que tout soit enfoui. Juste 2-3 secondes. Et ensuite, bien évidemment, on va vous aider à vous relever. Donc, le baptême, la symbolique du baptême, elle est simple. Quand on immerge le corps, ça symbolise que un deuil, un renoncement, on renonce à notre ancienne vie, dans tout ce qu'elle a eu de mal. On renonce pas à notre personnalité, on renonce pas au caractère que Dieu nous a donné, on renonce pas à notre personne, mais toute la dimension charnelle du mal, ça, on l'enfouit, on noie dans l'eau. Et c'est ça la première étape du baptême, on est enfoui dans l'eau, il y a comme une mort, un renoncement. Et quand on ressort de l'eau, par la foi, on accueille la vie de Dieu, en Jésus-Christ. Une vie de paix, de joie, une vie de bonheur, une vie de sens, une vie de conviction, une vie dans laquelle on est capable d'assumer nos responsabilités et d'aimer aussi notre prochain. Ça vous va comme ça? Formidable, oui, encore une fois.